Bonjour, juste un mot pour vous saluer et vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Donc à la Fichabille, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je travaille à la DRDJSCS sur le champ de la poudre de la vie. Donc ce matin, nous sommes réunis pour mieux comprendre et mieux s'approprier collectivement le nouvel appel à projet dont nous souhaitons que la promotion des projets 2017 seront à la hauteur de nos espérances et de votre imagination. Sans plus tarder, puisque juste pour vous dire bonjour, et sans plus tarder, je passe la parole à Gérard Delga, donc directeur régional adjoint à la direction régionale jeunesse, sport et cohésion sociale, qui introduira cette matinée. Voilà, merci.
Tu peux parler là.
Je peux parler là, ça fonctionne ? Merci. Bien, mesdames, messieurs, je suis particulièrement heureux, vous vous en doutez, d'ouvrir cette journée avec vous à l'espace Julien dans cette magnifique salle de la scène marseillaise. Je le fais au lieu et place de notre directeur régional qui a été appelé à Paris. Vous savez que ça ne vous a pas échappé, un nouveau gouvernement, les affaires vont redémarrer, l'administration se remet sur de nouveaux rails et ça nous occupe un petit peu. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que je le fais. Et de manière très solennelle et protocolaire, je voudrais commencer par vous remercier à tous d'avoir répondu à cette invitation. Vous êtes assez nombreux. C'est bien, ça prouve que le ciblage est bon. Je voudrais ensuite remercier l'espace Julien qui nous accueille très chaleureusement. Enfin, dans la salle, il fait frais, mais bon, c'est chaleureux quand même. Et en particulier son directeur Patrice Angosto et ses collaborateurs Sonia Curdian et Christian Arcamon qui nous accompagnent, qui accompagnent la direction régionale que je représente depuis déjà de nombreuses années dans cette aventure du programme IPM. Et je dis à dessein aventure dans l'esprit de belle aventure. Alors le programme, depuis... je ne sais pas si c'est 2001 ou 2002.
2002,
la bonne date. Donc la direction régionale qui aujourd'hui est jeunesse, sport, cohésion sociale suite aux avatars des regroupements administratifs, mais qui en 2002 devait être la direction régionale du FACILD, je suppose, relayée ensuite par la direction régionale de l'Accès, l'agence de cohésion sociale. Bon. Et toujours en collaboration avec la Direction régionale des affaires culturelles, qui elle n'a pas changé de nom, porte et développe ce programme. C'est une démarche qui est singulière dans le paysage normatif et prescriptif des politiques publiques. C'est un appel à projet qui est aussi inaccoutumé dans sa durée, puisque je viens de dire que ça fait 17 ans d'existence. Ce qui est une belle prouesse pour ce type de technique dans le secteur public, puisqu'aujourd'hui, c'est le gros reproche qu'on fait aux appels à projets, c'est que très souvent, c'est du one-shot. C'est lancé et ça dure une fois et puis on laisse tomber. Alors que là, il y a une belle continuité qui prouve le bon ciblage et le caractère bien vu de l'opération. Donc chaque année, l'ADR Jeunesse, Sport, Cohésion Sociale et l'ADR Affaires ou Actions Culturelles invitent des artistes à produire des projets qui témoignent de la diversité et de la richesse des parcours et des patrimoines migratoires qui ont contribué à façonner cette région. Dès son origine, ce programme se présente comme un programme qui valorise les apports de celles et ceux qui, dans notre région, essentiellement poussée par les vents de la Méditerranée, ont fertilisé cette terre. À ce jour, nous disposons de plus d'une centaine de productions artistiques qui témoignent des parcours migratoires. Et le mérite de ces productions est d'avoir exploré différentes formes, différents supports, différents vecteurs, la photographie, le film, les expositions, les livres, le théâtre, la danse et même les contes. Et d'avoir donc, à travers ces différents vecteurs, exploré les histoires et les mémoires, et d'avoir donné ainsi un visage aux migrants, aujourd'hui durablement installés dans notre région. Depuis 2001, les artistes proposent, souvent avec enthousiasme, avec talent, avec engagement, des projets qui abordent de manière sensible et exigeante les questions complexes du vivre ensemble. L'autre intérêt de ces productions est de nous permettre de voir sous un angle différent, sans manichéisme, sans angélisme, l'histoire des parcours et des territoires et de les rendre compréhensibles et accessibles. Le mérite est donc de proposer des projets qui dépassent les éloges et les poncifs sur la diversité culturelle du métissage. En témoignant de ce passé, par et grâce à l'art, les artistes contribuent à construire le présent, à proposer un vivre ensemble, un faire ensemble, qui s'adresse aussi bien à l'intuition qu'à l'intelligence, au sens qu'à l'émotion. Alors quelques dates pour préciser le sujet. La première, c'est 2014, avec l'apparition de la nouvelle politique de la ville, issue d'une loi de février de la même année. À partir de là, le programme IPM s'est résolument orienté vers la reconnaissance, la valorisation de l'histoire, du patrimoine et de la mémoire des quartiers de la nouvelle géographie prioritaire, ce qu'on appelle la nouvelle géographie prioritaire, pour les initiés, les QPV. Donc, retracer l'histoire des quartiers, transmettre les témoignages, la parole des habitants, c'est trouver dans la création artistique une nouvelle manière de participer à la construction de la citoyenneté, plus précisément du sentiment d'appartenance à la collectivité. On ne naît pas citoyen, comme vous le savez, on le devient. On le devient assurément par le partage d'un destin commun, mais on le devient certainement aussi par le partage d'une histoire commune, à commencer par celle du quartier, ce qui d'ailleurs pose parfois des problèmes quand les exigences de la rénovation humaine amènent à raser des quartiers, des tours, et à effacer ainsi le passé de ceux qui y ont vécu. L'autre date, c'est 2016. Depuis l'édition 2016, nous souhaitons donner une nouvelle impulsion à identité, parcours, mémoire par la mobilisation de voies nouvelles que permet l'essor du numérique et tout particulièrement du web. Internet n'a pas seulement bouleversé notre vie quotidienne, il permet de compléter la palette de l'artiste, lui ouvrant aussi bien des explorations créatives inédites que la conquête de nouveaux publics. C'est de cela que nous souhaitons, que nous vous invitons à discuter ce matin. Autrement dit, je résume, le sujet, comment mobiliser les ressources et les outils du numérique au service de projets artistiques qui abordent les enjeux d'histoire et de mémoire dans les quartiers politiques de la ville. Pour tenir le fil de la réflexion et des échanges, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés Monsieur Benoît Labourdette, qui se présentera. On me fait dire cinéaste consultant, mais vous direz qui vous êtes, ça sera mieux. Et je pense que c'est vous qui allez conduire les débats que je souhaite et les échanges que je souhaite fructueux entre vous tous cette matinée. Et sans plus tarder, je cède cette fois la parole à M. Patrice Agosto, qui est le maître de cérémonie.
Voilà, rapidement.
On vous remercie.
Cette réunion, nous l'avons montée un peu rapidement. Il s'agissait de la coller à l'appel d'offres qui vient d'être publié en ligne et pour lequel vous découvrirez la date limite de dépôt de projet qui est le 28 juillet. Bon. Le changement notable, c'est qu'en entrant dans ce nouveau type de production et dans la communication digitale, numérique, etc., nous allons changer aussi notre manière de travailler avec vous. Et en l'occurrence, Benoît, nous le ferons réintervenir dans l'année avec les projets qui ont été retenus fin 2016 et avec ceux qui vont être retenus début septembre. Voilà. La question est, on n'est pas dans un festival de short film, voilà. Il nous importe de toute l'année de discuter sur les processus, sur le sens du travail. Et je pense qu'en Benoît, on a trouvé la bonne personne qu'il nous fallait. Il connaît les acteurs, il connaît les quartiers, il a un spectre d'intervention large qui va de Arte à la Fémis, etc. Donc je ne vais pas parler plus longtemps, on aura l'occasion de se revoir dans l'année. Très certainement, dès début octobre, nous ferons une journée de travail qu'avec les structures qui auront été retenues et d'autres si c'est besoin. On est quand même souple dans ce fonctionnement, on est très open. L'idée, c'est quand même d'arriver à générer des porteurs et des artistes dans les quartiers qui se sentent à l'aise à la fois avec les techniques de la communication et avec la production de sens et de contenu. Ce qui est même fondamental par rapport à l'objet de l'identité, surtout dans cette époque. Voilà. Donc je vais passer. Il faut profiter qu'il est là. Hein, papa. Donc je vais passer la parole à Benoît.
Bonjour. Alors, ce que je vous propose qu'on fasse avant de tout à l'heure d'explorer les projets menés par Urban Prod et Tabasco Video, qui sont des projets donc, qui ont été soutenus préalablement, je crois que c'est toujours intéressant de partager des expériences autour des projets, de partager des expériences, c'est-à-dire pas forcément de dire ça a super bien marché, mais aussi de questionner les méthodes, les pratiques, les cheminements. Et du coup, avant ça, avant qu'on rentre dans les projets, je voudrais partager avec vous quelques informations, quelques réflexions sur la question des enjeux du numérique par rapport à des questions d'appropriation citoyenne, on va dire, pour le dire vite. Moi, c'est vrai que juste pour vous dire d'où je parle, hein, qui je suis et d'où je parle, je crois que c'est un petit peu c'est un préalable important. Donc, je m'appelle Benoît Labourdette, je suis cinéaste, je fais des films depuis longtemps, j'ai toujours eu à cœur de montrer les films. Je crois que ça, c'est important. La production audiovisuelle ou multimédia, elle est faite pour être vue, ou entendue, ou présentée, c'est-à-dire appropriée. On le voit bien avec Internet, les vidéos, je ne sais pas, les youtubeurs, il y a des millions de personnes qui regardent leurs vidéos et du coup, ça change le paysage audiovisuel. Donc, je pense que cette question de la diffusion, elle est clé. Donc, je suis cinéaste, mais je me suis toujours préoccupé de diffusion. J'ai fondé en 2005 le festival Pocket Film. Pocket Film, c'est un terme que vous connaissez peut-être. C'est le nom d'un festival que j'avais imaginé avec le Forum des images à Paris en 2005. C'était un festival consacré à la création de films avec téléphone portable. 2005, c'est l'année de l'apparition des caméras dans les téléphones portables. C'est-à-dire que c'est une technologie qui est apparue et moi, il me semblait très important d'accompagner le déploiement de cette technologie par des actions créatives, participatives et une réflexion. Parce que je crois qu'il y a souvent un petit peu une fausse idée sur les technologies. Les technologies, au départ, et notamment les technologies du numérique, elles sont créées par des commerçants, hein, généralement. Et qui veulent nous vendre quelque chose, mais la façon dont on se saisit des technologies, ce qu'on en fait, c'est parfois tout à fait autre chose. Et là, on va parler quand même pas mal d'audiovisuel, audiovisuel et multimédia. L'audiovisuel, ça vient d'une technologie inventée en 1895, le cinématographe, inventé par les frères Lumière. Et c'est juste une technologie. Mais cette technologie, En fait, à vrai dire, ils ont inventé ça à l'époque. C'est un petit peu un hasard de l'histoire des techniques, hein. C'est-à-dire que pour eux, c'était pour eux-mêmes, c'était un objet bizarre, le cinématographe, dont ils ne savaient pas trop quoi faire, à vrai dire. Et simplement, ils ont tourné quelques films, on n'appelait pas vraiment encore ça film, enfin, des tableaux vivants, vous savez comme moi, la sortie de leur usine à Lyon, l'arrivée du train en gare de La Ciotat, voilà, des choses comme ça, des sortes de tableaux vivants. Et il se trouve que ça fascinait les gens, ça passionnait les gens, et du coup, ben, ils faisaient payer le billet d'entrée pour les projections qu'ils organisaient au sous-sol d'un hôtel à côté de la gare Saint-Lazare à Paris. Et quand un magicien qui s'appelait Georges Méliès a vu ça, il a vu le potentiel, lui, narratif, d'effets spéciaux, etc. Il a vu tout ça, il a voulu acheter la caméra aux frères Lumière, mais ils ont évidemment refusé. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas du tout compris que leur invention dépassait la curiosité et du coup, si vous voulez, au niveau économique, ils ont évidemment refusé de vendre à quelqu'un d'autre leur caméra qui leur permettait de faire payer l'entrée. Vous voyez, ils n'avaient pas perçu le potentiel de leur invention. Du coup, c'était un des premiers piratages. C'est-à-dire que Méliès, il est allé se faire fabriquer une caméra en Angleterre et puis il a commencé à faire des films. Du coup, tout ça pour dire que une technologie, elle ne porte pas forcément en elle ce à quoi on va l'employer. Et je peux vous dire qu'en 2005, lorsqu'on a lancé ce festival de films tournés avec téléphone portable, les professionnels du cinéma, pour certains d'entre eux, nous regardaient avec beaucoup de condescendance. Mais attendez, pour tourner un film, on prend une vraie caméra, pourquoi on va prendre un téléphone portable? C'est mauvais techniquement. Et ça, il y a cette question technique qui est aussi une question économique. C'est-à-dire que par exemple, on va dire une image de bonne qualité, c'est une image qui a le plus possible de pixels qui est faite avec la caméra dernier cri. Mais pas du tout. Une image de bonne qualité, c'est peut-être ce qui s'y raconte. L'éclairage, le cadrage, l'attention qu'on a eu à faire cette image. On voit bien, par exemple, dans le champ de la peinture, il ne viendrait à personne l'idée de dire que la peinture hyper réaliste est de meilleure qualité que la peinture impressionniste, alors que les tableaux impressionnistes, ils sont flous. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas beaucoup de pixels. Du coup, je crois qu'il faut toujours prendre un petit peu de distance. Alors, j'ai donc fondé ce festival et évidemment, pourquoi moi ça m'intéressait, c'était que finalement cette caméra, elle allait venir dans la poche de tout le monde. Qui parmi vous n'a pas de caméra dans son téléphone portable? Levez la main. Ok, voilà, il y a une personne qui n'a pas de caméra sur elle en permanence. Donc ça, on peut dire oui, c'est anecdotique, on s'en sert pas. Et puis si on veut faire un vrai entre guillemets projet audiovisuel, on va prendre une vraie caméra. Oui, pourquoi pas? Mais ce que ça signifie, et on le sait, c'est que nos publics, nous-mêmes, et puis les gens à qui on s'adresse, ils ont cette capacité de production, si vous voulez, d'image. Je finis juste ma présentation et ensuite je reviens à une petite considération sur le numérique. Donc j'ai créé ce festival pour, si vous voulez, porter une réflexion et porter des actions. On a produit énormément d'actions dans le champ éducatif, social et culturel, et ça continue. Et c'est vrai que je connais un certain nombre d'entre vous parce qu'on mène des actions aussi ici. Enfin, je mène des actions avec certains d'entre vous. Après, moi, si vous voulez, vous l'avez compris, la technologie et son appropriation m'intéressent. Donc, depuis 3 ans, je fais beaucoup de projets avec des drones aussi. Parce que poser la question à un ado, enfin, poser la question à un groupe d'ados, la moitié d'entre eux, ils ont un drone chez eux. Des drones qui filment, ces caméras automatiques. Du coup, là aussi, je crois que c'est important de s'approprier, de détourner un petit peu l'objet du quotidien pour en faire quelque chose. C'est-à-dire que l'objet du quotidien, qu'il puisse devenir un outil d'expression. Je pense que ça, c'est vraiment une clé, mais depuis longtemps. Je veux dire, c'est l'atelier d'écriture. C'est-à-dire, j'ai un stylo, c'est la chose la plus banale qui soit. Je ne fais que des choses banales avec, mais à un moment donné, il y a un encadrement. Il y a des propositions culturelles qui peuvent être des propositions à des spectateurs. On va faire du théâtre, on va faire des lectures, c'est très bien. Mais on peut aussi proposer des ateliers d'écriture, des ateliers théâtre, hein, pour prendre des choses très, très anciennes. Et du coup, on va faire quelque chose d'exceptionnel avec les objets du quotidien. Et aujourd'hui, on est dans un monde numérique. On est tous complètement baignés dans le numérique. Le téléphone portable, c'est un objet totalement quotidien. Mais on peut, et la caméra aussi, si vous voulez, par extension, on peut faire quelque chose d'extraordinaire avec, produire des espaces de rencontre, des espaces d'expression. Et je crois que, si vous voulez, la dimension de la production professionnelle par rapport à la production amateur, on a beaucoup mis de hiérarchie, si vous voulez, sur ces choses-là. Je pense qu'il ne faut pas mettre de hiérarchie. On le sait bien dans le domaine du théâtre. Les spectateurs, les gens qui vont aller au théâtre, c'est aussi des gens qui font du théâtre amateur. Je crois qu'il y a vraiment cette question de l'appropriation du fait culturel. Elle est au cœur, à mon avis, de nos enjeux. Du coup, moi-même, je fais pas mal de formations pour des gens qui font de la médiation avec le numérique. J'ai aussi une société de prestations, c'est-à-dire que j'ai une société qui fabrique des sites internet, des DCP, des Blu-ray, des plateformes, des choses comme ça. Donc, je connais bien la technique. Et du coup, j'interviens beaucoup en formation professionnelle, notamment en effet chez Arte ou TV5 Monde, qui sont des gens que j'accompagne dans leur développement numérique. Mais voilà, donc ça fait des activités un petit peu diverses, mais avec toujours au cœur cet enjeu de la... comment dire, d'un espace social, si vous voulez, de la créativité comme vecteur d'espace social, quoi, comme vecteur de partage. Et je pense que l'attention qu'on va mettre à accompagner des pratiques avec les outils numériques, c'est donc qui va produire une qualité de ce qui est produit, que ce soit de la part des professionnels ou des amateurs, cette attention à la qualité va permettre, lorsqu'on organise une séance ou une projection ou qu'on met des choses en ligne, ça va permettre finalement une qualité de cette rencontre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'opposition entre la qualité artistique et l'attention qu'on met à la création artistique et puis l'appropriation sociale. Au contraire, les deux sont liés. Parce que si vous organisez une séance et puis que sur l'écran il y a des films pas terribles auxquels on n'a pas mis d'attention, ça ne va pas intéresser les gens. Alors, pour vous donner, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, je me suis présenté brièvement. J'accompagne aussi des collectivités dans la mise en place de projets, où justement, comment on fait pour que, notamment il y a quelques années, Évry, avec la communauté d'Évry, d'Aglo d'Évry, comment on fait pour que un projet qu'on conçoit, et notamment la question de la mise en valeur du patrimoine, comment on fait pour que ce soit approprié par les gens. Ça, c'est hyper important, parce qu'on a tendance à croire qu'on met quelque chose sur Internet et puis c'est bon. Mais en fait, Internet, et notamment la vidéo sur Internet, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les chiffres, mais par exemple, si on prend YouTube, alors je dis YouTube à la française, je ne sais pas comment vous dites vous, mais quand on dit YouTube à des ados, ils vous rient au nez parce que ce n'est pas le vrai mot, quoi. Le vrai mot, c'est YouTube, hein, à la française. Donc YouTube, cette plateforme, vous savez quand elle est apparue d'ailleurs ? 2004. D'autres propositions ? Bon, c'est 2005. Hein. YouTube apparaît en 2005. Apparaît en avril 2005, et d'ailleurs, un mois avant, en mars 2005, c'était Dailymotion, c'est français, Dailymotion. Comme toujours, hein, les Français sont à la pointe, et puis ensuite, ils se font totalement distancer, c'est un petit peu notre histoire, ça. Sur YouTube, donc, qui est une plateforme de vidéos communautaires, hein, vous le savez comme moi, les gens mettent leurs vidéos, c'est-à-dire que ce n'est pas une chaîne de télé, YouTube ne produit pas de contenu, c'est juste un accueil. Il y a 500 heures de vidéos supplémentaires qui sont postées chaque minute. Hein, il y a 500 heures de plus par minute qui sont disponibles. Donc à la fin de la journée, ça fait pas mal de milliers d'heures, si vous voulez, en plus. Ça veut dire que quand on met quelque chose en ligne, c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer. C'est pas parce qu'on met quelque chose en ligne que des gens vont aller le voir. Ça, je crois que c'est hyper important de s'en rendre compte. Et c'est pas parce qu'on met quelque chose sur YouTube que ça va être plus vu que si on le met sur Dailymotion ou sur Vimeo ou sur nulle part, c'est-à-dire juste dans son propre site. Je vais vous parler un tout petit peu pour vous donner, parce que c'est important d'avoir des notions économiques, de l'économie de YouTube. Et je vais vous montrer un film. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un film, mais je vais vous montrer quand même un exemple, parce qu'il faut bien comprendre où on est en tant que professionnel. Est-ce que vous connaissez le film qui s'appelle Charlie Bit My Finger? Vous avez entendu parler de ce film? Il dure 56 secondes, je vais vous montrer. Vous allez vraiment vous demander pourquoi je vous montre ça, hein. Mais j'assume, vous allez voir pourquoi, parce que ça me permet de vous dire un certain nombre de choses. Bon, alors c'est en effet c'est rigolo, c'est un film amateur. Alors ça, c'est justement a priori un peu à l'opposé des projets qu'on fait, hein. C'est vraiment même l'opposé radical. Du coup, en quoi ça peut nous concerner, cette chose-là? Voilà, il a été visionné 850 millions de fois. On a été 22 millions à voter, hein. Vous voyez, c'est énorme. Et il est en ligne depuis 10 ans. Il a été mis en ligne le 22 mai 2007. Qu'est-ce que ça signifie, 850 millions de visionnages? C'est presque inimaginable, hein. Vous voyez ce que je veux dire, on est 60 millions en France, enfin voilà, c'est inimaginable. C'est l'exception qui confirme la règle. Il y en a très peu des vidéos qui font, vous connaissez celle qui a fait le plus de visionnages, vous vous rappelez, c'était l'été 2012-2013, Gangnam Style, qui a fait plus de 2 milliards de visionnages. Mais là, c'est une vidéo amateur. Vous savez comme moi que là, on n'en a pas eu chance, mais il y a des publicités à côté des vidéos, hein, et puis en dessous, et parfois même pendant la vidéo, il y a des publicités. YouTube, c'est une société privée, américaine, qui appartient à Google. Et, enfin, d'ailleurs, c'est plus, je ne sais pas si vous le savez, mais la maison mère de Google s'appelle Alphabet. Hein, ça a changé. Hein, Google, c'est juste une des filiales maintenant. Du coup, ils vendent l'espace publicitaire. Il y a beaucoup de visionnage, eh bien, ils vendent leur espace publicitaire. Comment ça se passe? C'est important de comprendre un peu l'économie du numérique aussi, hein. C'est pour ça que je prends 5 minutes pour vous expliquer cet exemple. Comment ça se passe? L'annonceur n'est facturé qu'au clic. C'est-à-dire, c'est pas comme une affiche dans la rue où je paye un certain prix pour 15 jours. Non, là, c'est quand quelqu'un clique, ça prélève quelques centimes. Du coup, c'est extrêmement efficace, la publicité sur Internet, parce que celui qui a cliqué pour la publicité sur les couches-culottes, c'est qu'il s'intéresse aux couches-culottes. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, en moyenne, c'est ce qu'on appelle le CPM, le coût pour 1000, en moyenne, quand une vidéo est vue 1000 fois sur YouTube, elle rapporte 10 dollars à YouTube. Vous voyez, par la vente d'espace, hein, par les différents clics qu'il y a eu. Du coup, ils ont gagné combien d'argent, là? Est-ce qu'il y a des bons en maths dans la salle? Non, c'est 10 dollars les 1000 vues, c'est pas 1 dollar les 1000 vues. Ça leur a rapporté 8 millions de dollars. Alors, traditionnellement, si vous voulez, il y avait quand même une grosse différence entre les amateurs et les professionnels. C'est que les contenus professionnels ont une valeur en eux-mêmes. Je paye ma place de cinéma, je paye ma redevance télé, j'accepte d'être exposé à la publicité pour voir des films sur TF1 ou des choses comme ça. Mais le contenu amateur, le petit film de famille, il n'avait pas de valeur marchande. Personne ne va payer pour voir un film amateur, alors qu'on va éventuellement payer pour voir un film professionnel, quoique ça change un petit peu avec le piratage, etc. Mais le fait qu'un film amateur, par la qualité, entre guillemets, de son contenu, puisse rapporter beaucoup d'argent, ça c'est extrêmement nouveau. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un film viral, les gens le partagent, tiens c'est sympa, je te le partage sur YouTube, sur Facebook, etc. Et du coup, on est exposé à des publicités, et du coup ça rapporte de l'argent. Moi je connais très très peu de productions professionnelles qui rapportent 8 millions de dollars. C'est excessivement rare, hein. À part les quelques blockbusters hollywoodiens, d'accord, mais enfin une production classique française, ça ne rapporte pas autant d'argent. Bon, du coup, ça questionne cette chose-là. Ce que ça questionne, si vous voulez, c'est le modèle économique du champ professionnel de l'audiovisuel et puis le système hiérarchique qui était en place depuis longtemps. C'est-à-dire que la différence entre amateur et professionnel, elle passait par la question économique. Le contenu professionnel, encore une fois, il a une valeur marchande. Le contenu amateur n'a pas de valeur marchande. On voit là que le contenu amateur, il a une valeur marchande aujourd'hui. Et sur YouTube, si vous voulez, tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu dans YouTube. Les professionnels, ils mettent leurs vidéos sur YouTube aussi. Par exemple, TV5Monde, qui est une chaîne avec qui j'ai beaucoup travaillé sur de la formation, sur leur mutation avec le numérique, ils mettent leurs trucs sur YouTube et ils essaient de faire des vues sur YouTube. En termes purement économiques, pour finir sur l'économie, le secteur du cinéma et de l'audiovisuel, c'est un secteur qui a un certain poids économique dans le monde. En 2007-2008, le poids économique du secteur du jeu vidéo est devenu plus important en volume financier que le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Et ce qui est en train de se passer, c'est que le poids du secteur du partage de vidéos, de photos, est en train de devenir plus important que le poids du secteur de l'audiovisuel professionnel. C'est-à-dire que nous, professionnels, professionnels de la culture, de la médiation, de l'audiovisuel, enfin on est tous des professionnels, en fait, économiquement, sur la question de l'audiovisuel, on est en train de devenir une sous-partie d'un ensemble plus vaste qui intègre la production amateur. Mais c'est pas parce qu'il y a des vidéos qui font 850 millions de vues, c'est très rare. La plupart des vidéos, elles font 12 vues, vous voyez. Mais comme il y en a énormément sur le global, en fait, ça produit des sommes très importantes. Je pourrais vous donner des détails là-dessus, mais enfin, je vais avancer. Il y a un point très notable aussi, c'est que on pense que Internet, c'est le règne de l'immédiateté, du direct, etc. Oui, d'une certaine manière, mais non d'une autre manière. C'est-à-dire que cette vidéo, elle a fait 850 millions de vues en 10 ans. Internet, c'est une archive. Et je crois que les projets qu'on met en place, il faut les penser dans leur durée. Ça, dans tous les projets transmédia, comme on dit, d'ailleurs, c'est peut-être un terme qu'on pourrait définir, que je vais définir juste après, ce qu'on appelle le transmédia. Il faut penser la durée. La télévision, elle est dans le présent. Parce que c'est un flux, on s'y connecte, où on y est connecté ou pas. Alors il y a tout ce qui est le replay, mais justement le replay c'est de l'archive. Là moi j'ai beaucoup accompagné Arte sur leur question de l'archive, de comment ils valorisent leur contenu sur la longue durée. Je vais vous donner une petite définition de ça. Il y a une notion économique qu'on appelle la longue traîne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette notion. C'est un auteur vraiment que je vous invite à lire, qui s'appelle Chris Anderson, un auteur américain, qui est d'ailleurs l'un des fondateurs des conférences TED. certains connaissent les conférences TED. Et ce qu'il a expliqué, si vous voulez, dans la longue traîne, c'est, je ne sais pas si je rentre dans les détails de la longue traîne, mais c'est que, en gros, l'économie, allez, si je prends l'exemple, c'est un peu l'économie basique, mais je prends l'exemple, au moins ce sera évident. Il compare à la fin des années 90, il compare la Fnac et Amazon. À l'époque, Amazon vendait que des livres, la Fnac vendait que des livres dans ses boutiques. La Fnac n'avait pas de site internet. D'accord ? Il compare une librairie physique et une librairie en ligne. D'accord ? Il regarde le modèle économique. À la Fnac, librairie physique, c'est ce qu'on appelle la règle des 80-20. En fait, il y a 20% des ouvrages, les best-sellers et les nouveautés, qui représentent 80% du chiffre d'affaires. Vous voyez ? Et puis 80% d'autres petits trucs, si j'ose dire, ne représentent que 20% du chiffre d'affaires. Du coup, comme il y a 5000 livres qui sortent chaque année, que les rayonnages physiques ont une limite, bah, le bouquin dont il s'est vendu 3 exemplaires dans l'année, l'année suivante, il dégage et il laisse place à d'autres. C'est absolument normal parce qu'il y a des limites physiques. Et maintenant, si on regarde la librairie en ligne, Amazon à l'époque, qui vend des livres sur Internet, bien sûr, sur Amazon, il y a aussi 20% des nouveautés et des best-sellers qui font 50% du chiffre d'affaires. Et tous les petits trucs, les 80% restants, comme Amazon n'a pas de limite physique, vous savez, ils font la relation entre des éditeurs et eux, ils ne sont qu'une plateforme, eh bien, les livres, ils ne sortent jamais des rayonnages. Ils peuvent toujours rester là, en fait, les livres. Et du coup, le petit éditeur, et en plus, il y a tout le système de recommandations, de moteurs de recherche, etc., qui fait que, vous savez comme moi, vous avez lu ça, on vous conseille ça, etc., etc. Et du coup, le petit bouquin dont il s'est vendu que 3 exemplaires dans l'année à la Fnac et qui sort des rayonnages, et bien sur Amazon, il s'en vend 3 exemplaires peut-être dans l'année, mais il va s'en vendre encore 3 exemplaires l'année suivante, et en 10 ans, il s'en sera vendu 30 exemplaires, alors qu'à la Fnac, il ne s'en serait vendu que 3 exemplaires en un an, parce qu'il serait sorti. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'appelle la longue traîne, en fait, c'est toutes ces petites choses qui semblent ridicules, mais sauf que c'est très très long, et que en quantité, toutes ces petites choses représentent 50% du chiffre d'affaires de la librairie en ligne. Et ça, si vous voulez, ça nous explique le modèle économique du web. C'est-à-dire que avant le web, avant Internet et le numérique, en fait, c'était un peu le top 50. Vous voyez, c'était le mass market. C'est-à-dire que il y avait les choses connues qui fonctionnaient, et puis les choses dans leur coin, elles restaient très confidentielles dans leur coin. Elles avaient très peu de chances d'accéder parce qu'on était dans un marché de masse. Alors que finalement, ce que je viens d'expliquer avec la longue traîne, en fait, c'est ce qu'on appelle des niches. C'est-à-dire le petit bouquin dont il se vend 3 exemplaires, je ne sais pas, c'est peut-être un bouquin de poésie publié à Bandol par monsieur Intel. Et il y a quelques personnes, pas beaucoup, qui s'intéressent à lui. Mais vu qu'il peut exister, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr dans Internet une grande potentialité d'uniformisation, mais il y a aussi une énorme potentialité de diversité, en fait, hein, il y a les deux à la fois. Il va pouvoir s'adresser sur la longue durée à sa niche, quoi, aux gens qui s'intéressent à lui. On le voit bien dans le champ, et vous devez en connaître quelque chose, de la musique, si vous voulez, à quel point aujourd'hui Internet est une plateforme pour que certains groupes de musique très spécifiques, finalement, trouvent leur public au fur et à mesure et construisent vraiment quelque chose. Du coup, aujourd'hui, Internet, ça fonctionne sur des niches. Et on peut construire des modèles économiques de niches. C'est-à-dire que le fantasme du grand public, c'est un fantasme. Ça n'existe plus, le grand public. Et les chaînes de télévision le savent bien. Même TF1, c'est plus une chaîne grand public. C'est une chaîne sur un segment particulier, sur une niche particulière. Il y a 20 ans, oui, c'était une chaîne grand public. Mais aujourd'hui, il y a une telle multiplication. Chacun va chercher ce qui l'intéresse. Et bien sûr, on peut changer de niche. Mais bref, et ça, c'est Chris Anderson qui le dit. Avant Internet, on était dans un marché de masse. Et après Internet, il y a une masse de niches. On sait par ailleurs que Internet est un média local, principalement local. Et du coup, c'est un outil Et je l'ai vu parce que j'ai pris connaissance des divers projets soutenus, et il y a vraiment des projets excellents. Et on voit à quel point certains d'entre vous, justement, vous appropriez ce média dans sa dimension locale avec des applications qui sont destinées à être vues sur téléphone pour faire, pour se balader, etc. Et je crois que c'est un outil qu'il faut envisager dans son inscription locale et du coup qu'il faut, à mon avis, articuler avec des événements. Et choses, je vous dis ça, mais c'est des choses que j'ai vues dans un certain nombre de projets, mais c'est pour qu'on soit bien convaincu de ça. Et puis par ailleurs, il y a une chose aussi importante, c'est que les usages des gens avec le numérique, avec Internet, évoluent beaucoup. Il y a tout le temps des nouvelles applications, par exemple l'application Snapchat, que vous connaissez peut-être. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc qui est très utilisé par les ados. Snapchat, c'est je prends une photo ou une vidéo et je l'envoie à mon groupe d'amis, si vous voulez. Et la photo, elle est vue 5 à 10 secondes et elle disparaît à tout jamais. Et la vidéo, elle est vue une fois et elle disparaît. À part si je me mets en mode story, enfin au quotidien, si vous voulez, il n'y a plus d'enregistrement des images. C'est très très surprenant. Sachez que sur YouTube, il y a 5 milliards de vidéos qui sont vues chaque jour. C'est pareil, c'est des grands chiffres, ça ne veut pas dire grand chose. Mais sur Snapchat, où les images ne sont pas conservées, il y a 10 milliards de photos et vidéos qui sont échangées chaque jour. Donc deux fois plus que sur YouTube. Du coup, il y a en fait un usage non mémoriel des images qui est aujourd'hui plus important finalement que l'image mémorielle et patrimoniale telle qu'on le voit sur YouTube. Du coup, le modèle économique dont je viens de vous parler pour YouTube, c'est entre guillemets déjà has-been, mais c'est pas has-been dans le sens où ça génère toujours beaucoup d'argent. Mais si je vous parle de ça, c'est que je crois que quand on fait des projets avec le numérique, essayons de toucher les usages des gens, c'est-à-dire de ne pas faire des choses qui semblent à côté de la plaque par rapport à ce qu'on fait au quotidien. Je ne dis pas qu'il faut être dans la fuite en avant et tout le temps utiliser, faire des nouveaux trucs et des nouveaux trucs et des nouveaux trucs. Il faut s'ancrer dans la durée, et je vais d'ailleurs en parler un peu plus concrètement de cette question patrimoniale qui me semble très importante. Mais il faut savoir que les technologies évoluent, que les usages des gens évoluent et que nous devons remettre en question nos pratiques. Et je crois que, moi, c'est des choses que j'essaie de cultiver, et notamment je démarre l'année prochaine, alors sur la région Île-de-France, mais ça devrait s'étendre plus tard, un projet de recherche-action, c'est-à-dire où on fait des actions culturelles, de médiation, c'est sur le lien entre exploitation cinématographique et puis action culturelle, éducation à l'image, comme on dit, pour essayer de trouver des transversalités et puis de renourrir, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de proposer des pratiques à des gens, pas seulement des jeunes, hein, mais notamment dans des entreprises, etc., pour essayer de ramener des gens et de redonner sens à la salle de cinéma. Vaste projet, vaste idée, belle idée, mais après, comment on le fait? Qu'est-ce qu'on expérimente? Comment on partage les expériences? Comment on se nourrit les uns des autres? Et comment aussi on remet en question les pratiques? Parce que ce qui est important, c'est pas le résultat, hein. C'est pas juste d'avoir fait un joli webdoc super chouette ou un bon film ou un blog super. Ce qui est important, c'est comment les gens se l'approprient au présent et dans le futur. Parce que ce matin, il était question de l'histoire, mais l'histoire d'un territoire ou d'une personne, mais disons d'un territoire. L'histoire, elle existe parce qu'on en garde des traces organisées et structurées. Sans traces, il n'y a pas d'histoire. On le voit bien par rapport au patrimoine du continent africain, qui a été un patrimoine principalement oral, et on a l'impression qu'il n'y a pas d'histoire, on la connaît très peu, enfin en tout cas c'est une histoire qui est très très peu connue, parce qu'il n'y en a pas suffisamment de traces. Et du coup, je vais prendre un exemple très concret. Alors, du coup, je vais me permettre de faire un petit peu de cliquer sur l'appel à projet, j'ai le droit. On indique que les vidéos peuvent être mises en ligne sur Web TV, YouTube, Dailymotion, Facebook, Instagram. Très bien, parce que ce sont des plateformes de partage. Mais attention, si vous avez fait une vidéo, vous la mettez en ligne sur YouTube, et puis je ne sais pas, dans votre vidéo, il y a une image de la place Tiananmen, par exemple. Et bien, à un moment donné, 3 semaines plus tard, elle va être censurée de la plateforme YouTube, parce que vous savez que c'est un endroit qu'on n'a plus le droit de représenter, hein, la place Tiananmen, même si on n'est pas en Chine, c'est tout à fait interdit. Et donc, c'est simplement pour vous indiquer la fragilité, c'est-à-dire que YouTube, c'est une multinationale américaine qui a ses intérêts, qui vend de la publicité autour de vidéos, mais les intérêts de cette plateforme ne sont pas forcément à notre service. Je n'ai pas forcément envie qu'il y ait des publicités pour telle ou telle chose qui viennent après ma vidéo. L'autre jour, je vais vous donner 2-3 petits exemples de projets. J'ai fait des considérations un petit peu générales. Je vais vous donner 2-3 petits exemples. J'ai fait des projets pas mal avec le Musée de l'Homme récemment. À Paris, et je suis allé sur leur site voir leur vidéo de bande-annonce qui est sur Dailymotion. On a leur bande-annonce, on la voit sur leur site, puis après on a des liens, je suis bien dans le site du Musée de l'Homme, vers plein d'autres vidéos qui sont sur Dailymotion qui ont strictement rien à voir avec le Musée de l'Homme, alors que ce serait quand même peut-être un petit peu plus pertinent. C'est sympa d'avoir des propositions de vidéos après le visionnage, mais ce serait pas plus pertinent que ce soit vers d'autres vidéos qui sont sur le site du Musée de l'Homme? Ça semble évident, mais on ne le fait pas. Et par exemple, pour prendre l'exemple de Dailymotion, il y a 3 ans, ils étaient au bord de la faillite. Ils ont été rachetés par Orange. Tant mieux pour eux. Mais toutes nos vidéos qui sont sur Dailymotion, s'ils avaient fait faillite du jour au lendemain, il n'y avait plus rien. Du coup, ça, en termes patrimonial, attention, les plateformes de vidéos communautaires sont les ennemis du patrimoine. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? On a des productions, on les met sur ces plateformes, c'est-à-dire qu'on ne les a même pas sur nos serveurs, on ne les a même plus dans nos disques durs. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas grave, parce que en fait, moi, j'ai les masters originaux, de toute façon, je pourrais les retrouver. Alors là, quand on dit ça, on dit tous ça, mais c'est totalement théorique. C'est-à-dire que, ok, on a peut-être les masters originaux, mais s'il faut retrouver une vidéo, je vous mets au défi de la retrouver et de pouvoir la remettre en ligne rapidement. C'est-à-dire que, en fait, l'espace de diffusion, c'est l'espace d'existence du patrimoine. C'est pour ça que c'est important, quand on met des choses en ligne, d'avoir l'attention à la meilleure qualité possible. Bien sûr, c'est moins bon que le master original, mais peut-être que c'est que ça qui va rester un jour. Du coup, il faut y mettre de l'attention. Et ça, alors vous allez me dire, mais oui, mais pour mettre une vidéo en ligne, on a besoin de ces plateformes. Eh ben non. En fait, non. C'est ce qu'on nous fait croire peut-être. Mais si vous voulez, quand vous mettez une image JPEG en ligne, et là je suis un peu technique, mais on a parlé économie, je parle un petit peu technique aussi. Quand vous mettez une image JPEG en ligne, vous faites un site internet, les images JPEG, elles sont sur votre site. Si on est un peu sérieux, on fait des sauvegardes, ce qu'on appelle des backups. C'est-à-dire que, parce que vous savez sans doute que il ne faut jamais faire confiance à un ordinateur, hein, ni à un disque dur. Un disque dur, ça a une durée de vie de 5 à 7 ans. Et après, ça se casse. Donc, ce qui est dessus, c'est tout perdu. Du coup, si vous voulez, aujourd'hui, ça c'est extrêmement important aussi en termes patrimonial. La seule solution qu'on a trouvée pour sauvegarder le patrimoine numérique, peut-être un jour on trouvera d'autres solutions, mais enfin en tout cas aujourd'hui, c'est d'avoir les éléments en double exemplaire, stockés en 2 endroits différents. Donc pourquoi pas ma vidéo sur YouTube et puis chez moi. Sauf que le problème, c'est que je ne peux pas prendre YouTube et faire une copie des vidéos comme ça. Vous voyez, c'est eux qui gèrent l'hébergement. Et quand je fais un site, donc je dis les images JPEG, elles sont dans mon site. Donc quand je fais une sauvegarde, j'ai sauvegardé les contenus textuels, la mise en page et les images JPEG. Et les vidéos, elles sont toutes ailleurs. Donc quand je fais une sauvegarde de mon site, je fais une sauvegarde de tout, sauf des vidéos. Ce qui signifie qu'à terme, je les aurais perdues. Alors qu'en réalité, depuis 12 ans, mais on ne sait pas, mais depuis 12 ans, depuis 2005, je peux encoder, comme on dit, les vidéos dans un format ad hoc et de façon encore plus facilitée depuis, on va dire, 2-3 ans et l'arrivée de ce qu'on appelle HTML5, c'est-à-dire la version 5 du langage du web, des pages web. Il y a une balise, comme on dit, IMG, qui me permet de mettre les images JPEG, et il y a une balise vidéo, qui me permet de mettre une vidéo. Ça n'est pas plus compliqué aujourd'hui, il faut juste préparer son fichier, de même qu'une image JPEG, je ne vais pas mettre une image énorme de 10 mégaoctets qui va mettre super longtemps à se charger, il faut que je la réduise un petit peu, que je l'adapte. De la même manière, la vidéo, il va falloir l'encoder en MP4. Et d'ailleurs, je vous conseille, allez, allons jusqu'au bout de la technique, je vous conseille vivement un outil d'encodage gratuit qui s'appelle Handbreak et vous moulinez toutes vos vidéos là-dedans et vous pouvez les mettre directement dans votre site sans passer, si vous voulez, par ni YouTube ni Dailymotion et ça va marcher. Il n'y a pas de souci, si vous voulez. Ça marche sur Mac et sur PC. Si vous voulez, moi, là-dessus... Je crois qu'il faut être très, très concret. Il y en a plein d'autres, hein, des outils, mais celui-là, il est très bien. Du coup, si vous voulez, cette question patrimoniale, le fait de dire mon site, ma plateforme, il faut que dans 10 ans, elle soit toujours là et qu'elle puisse trouver des usages, eh bien, il y a déjà une simple question technique, si vous voulez, qui est, dans 10 ans, il faut que ce soit toujours là physiquement, concrètement parlant. Et du coup, oui, on parle de technique. Alors, suite aux discussions nombreuses qu'on a eues avec Patrick, c'est vrai que on a beaucoup parlé de la question de la formation. Et je crois que, alors, pour parler un petit peu de formation, je pense que, en effet, la formation technique, il y a différents volets de formation, mais il y a l'aspect technique de la formation. C'est un point qui me semble très important. Parce que le numérique, en fait, nous, on était là, et puis, bloum, le numérique arrive, personne n'a été formé au numérique, alors tout le monde se forme sur le tas, etc. Et les industriels, ils ont bien compris, et ils nous font croire que le numérique, c'est magique, en gros. Il y a vraiment même des champs lexicaux de pensée magique. Hein. On nous dit que l'informatique est dans les nuages, par exemple. Je veux dire, non, il n'y a rien du tout dans les nuages. Hein. Il y a des molécules d'eau, quoi. Mais l'informatique, c'est dans des usines au bord de rivière avec plein de disques durs, parce qu'il faut au bord de rivière, parce qu'il faut refroidir, quoi. Et du coup, c'est vrai que quand on met une vidéo en ligne, on a l'impression que c'est bon. Comme s'il y avait quelqu'un qui gérait pour nous. Quelqu'un, c'est Dieu, quoi, vous voyez. Une sorte d'instance, comme ça. Eh ben non. Il n'y a pas un dieu du numérique qui gérerait tout pour nous, ça n'existe pas. C'est juste des gens qui gèrent des disques durs et c'est à nous de nous saisir d'une gestion intelligente et de bon sens. Et c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. C'est-à-dire que il faut s'y mettre, c'est des méthodes, si vous voulez. Et si on s'inscrit dans ce type de méthode, on va constituer un patrimoine et on va commencer à raconter notre histoire, en fait, et à produire des outils qui vont permettre que notre histoire existe dans le futur. Parce qu'on le sait, et ça, il y a un certain nombre de chercheurs qui nous l'ont montré, le numérique, c'est donc extrêmement fragile, et on sait qu'il y a énormément aujourd'hui d'images, mais on est sans doute l'époque dont il restera le moins d'images de toutes les époques, en fait. Parce qu'elles sont sur des supports d'une fragilité extrême. En fait. Un disque dur, c'est une fragilité extrême, et le numérique, vous savez, c'est ce qu'on appelle des 0 et des 1, le binaire, en fait. C'est de l'information, c'est un code, c'est le code informatique, tout est codifié, parce qu'en fait, les 0 et les 1, ils permettent de compter, et du coup, ils permettent de décrire des images, des textes, et ainsi de suite. Et du coup, une image, une photo tirée sur du papier, ou un film Super 8 qui est sur une pellicule, vous la retrouvez 50 ans plus tard dans le grenier de la maison. Mais un CD-ROM ou un disque dur, 50 ans plus tard, déjà, il y a de grandes chances qu'il ne marche plus, mais imaginons qu'il marche. Déjà, vous ne pouvez plus le brancher parce que ce n'est plus les prises USB 50 ans plus tard, vous imaginez bien que voilà. Et imaginons que vous réussissiez à le brancher, les formats n'existent plus. C'est-à-dire que, par exemple, le format Word, attention, le format Word des fichiers .doc, C'est des fichiers cryptés par Microsoft. S'il n'y a pas Microsoft, dans 100 ans, on ne pourra plus les lire. Du coup, ça, c'est l'enjeu des logiciels libres aussi, hein, parce qu'on est pas mal pieds et poings liés à des industries. Tout ça pour dire que la dimension de la formation technique sur le point de l'appropriation du numérique et de ses potentialités et de ses pratiques, c'est, je crois, un point assez important. Moi, je le vois notamment chez les professionnels de l'audiovisuel, comme je fais beaucoup de formations professionnelles pour des professionnels de l'audiovisuel. Y a une compétence, si vous voulez, sur l'audiovisuel, le tournage, le montage, toutes ces choses. Mais sur le numérique, il y a vraiment une crainte. Et puis, à contrario, il y a des gens qui ont été formés, des gens plus jeunes, qui ont été formés au multimédia, mais qui, sur la question audiovisuelle, sont un petit peu défaillants, qui ont l'impression que je prends un Canon 5D, j'appuie sur le bouton, et puis ça fait des superbes images. Ben non, en fait, ça se travaille aussi. Donc ça, c'est sur les techniques. Je pense que ça vaut le coup, et je pense que aussi, à travers les projets de création qu'on propose à des publics, je pense que être dans la pédagogie par rapport à des publics, et notamment à des jeunes gens, je pense que c'est utile. Parce qu'on a aussi l'espèce d'image d'Épinal que le jeune est super à l'aise avec le numérique. Mais on est, voilà, vous travaillez avec, pour un certain nombre d'entre vous, avec des jeunes, et c'est totalement faux. C'est-à-dire, c'est comme nous. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui aiment bien, qui sont un peu technophiles, etc. Mais la plupart, ils sont usagers. Ils savent utiliser Snapchat, etc. Mais ils sont complètement démunis sur les histoires justement d'encodage, de patrimoine, de conservation, d'usage. Vraiment, moi je vois des jeunes qui sont très très démunis hein, face aux objets numériques. Et du coup, il y a une question aussi de transmission, d'outils d'expression. Hein. Parce que tout ça, là j'ai beaucoup parlé de technique, etc. Mais ces outils-là, ils ont une finalité hein, d'expression. Et l'expression... l'expression, c'est quand même la clé d'une société démocratique, que les gens puissent s'exprimer pour dialoguer les uns avec les autres. S'il n'y a pas ça, eh ben, il y a, à mon avis, une difficulté avec la démocratie. Ça, c'est l'aspect technique. Ensuite, il y a la question, pour moi, il y a deux autres espaces sur la formation. La question des méthodologies. C'est-à-dire comment on mène les projets, qui fait quoi dans les projets, quelles sont les fonctions des uns par rapport aux autres, qu'est-ce qu'on conçoit comme type de projet. Et là, vraiment, c'est pour ça que moi, ça m'a passionné de voir tous les projets, c'est qu'il y a plein d'approches différentes, singulières, etc. Et on a la sensation d'apprendre et justement de recevoir des idées des uns et des autres. Mais je crois qu'il y a aussi... justement, encore une fois, cette question d'appropriation. C'est-à-dire que, à mon sens, être professionnel, je crois que c'est plus se référencer à cette espèce d'image d'Épinal du Festival de Cannes et tout, du vrai cinéma, etc. C'est important de mettre de l'attention à faire des choses, mais je crois que surtout ce qui est important, parce que ce sont nos objectifs sont quand même sociaux derrière. Donc ce qui est important... C'est pas qu'il y ait des professionnels qui fassent des jolis films et on va avoir l'impression que ça va valoriser les publics avec lesquels on fait les jolis films, parce que c'est beaucoup ça quand même. Non, 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 moi je suis pas d'accord avec cette idée. Je crois que ce qui est important, c'est que, bien sûr, c'est de faire des jolis films, mais ensemble, des jolis films dans lesquels les participants auront pu vraiment s'exprimer, se saisir vraiment des choses. Et du coup, ça passe par la question de l'écriture. Qu'est-ce que c'est que l'écriture d'un projet? Comment on en arrive à co-concevoir un projet? Et ça, c'est vraiment des méthodologies qui sont, c'est-à-dire que par exemple, on en parlait aussi avec Patrice, passer par l'écriture d'un scénario, dire, pour faire un film, il faut d'abord écrire un scénario, c'est se couper des trois quarts de son public. Parce que l'écrit, si vous voulez, c'est malheureusement en France, vous savez que moi on a un des pires systèmes scolaires au monde, il faut être conscient de ça, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'ONU qui le dit tous les 3 ans, rapport PISA après rapport PISA. Et du coup, malheureusement, l'écrit est vraiment un facteur d'exclusion sociale terrible. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en gros, à qui on interdit l'accès à l'écrit. Et du coup, bah, le fait est que, on peut déplorer ça, il y a plein de choses à faire dans le champ de l'éducation, évidemment, il y a plein de choses à faire bouger. Alors on peut rêver, moi j'aimerais bien rêver, que peut-être les choses vont changer. Mais en tout cas, nous, on est face à des gens qui sont en difficulté avec l'écrit. Et du coup, si on dit, il faut absolument, je ne dis pas, je ne suis pas contre le scénario, mais moi, j'enseigne aussi dans des écoles de cinéma comme la Fénis, par exemple, qui est une école de cinéma à Paris. Et ben, j'enseigne justement là des méthodes de travail, des méthodes d'approche pour faire des films sans passer par l'écrit. Et on fait d'autres types de films. Parce que passer par l'écrit, ça formate aussi la pensée. Hein, parce qu'on fait un certain type de film quand on passe par l'écrit. Comment on fait pour travailler autrement? Et comment on fait pour commencer par l'image? Si vous prenez par exemple le champ du théâtre ou de la danse contemporaine, on sait tous, je ne sais pas, un chorégraphe de danse contemporaine va faire des improvisations, des gestes, des trucs, des idées, des portées, des trucs et des machins. Ah tiens, ça c'est une super idée. Et il va travailler la matière. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le corps? Et puis à partir de ça, il va constituer son spectacle. Il ne va pas écrire un scénario. Peut-être, il va utiliser l'écrit aussi, et puis des systèmes de notation, etc. Mais il y a surtout le travail avec la matière. Et dans le champ de l'audiovisuel, on peut, je veux dire, en plus, on a des outils, on peut filmer autant qu'on veut, on peut tester des choses, faire des improvisations, répéter, et en gros, commencer par l'image, et à partir de là, écrire des projets, mais écrire au sens large du terme. Du coup, vous voyez, ce type d'approche, moi je fais pas mal de projets avec un psychanalyste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Serge Tisseron, et notamment depuis un peu plus de 2 ans, on organise des formations dans le champ, c'est un peu fâcheux les mots que je vais vous dire, mais dans le champ de la lutte contre la radicalisation. Alors, au départ, quand la préfecture de police de Paris a contacté Serge Tisseron pour dire « Tiens, on voudrait faire des trucs sur la lutte contre la radicalisation » et qu'il m'a dit ça, j'ai dit « Non, mais c'est hors de question. Enfin, c'est tellement n'importe quoi de parler de ça. Alors que depuis 30 ans, il y a des associations qui tirent la sonnette d'alarme et puis on leur donne pas de moyens. Et tout à coup, hop, allez, on va identifier les publics en cours de radicalisation, on va leur faire des propositions culturelles super sympas et on va régler les problèmes. Bah, en fait, non, c'est pas ça l'histoire. Mais, bon, j'ai dit, ok, bah, on va dire ce qu'on pense, dire que en fait, on peut en effet former des éducateurs de rue, des gens comme ça, à des projets avec l'audiovisuel, donc on fait quelque chose de... Et puis, c'est pas qu'on lutte contre la radicalisation, mais c'est qu'on ouvre à l'expression et puis on se situe plutôt dans le champ de la prévention, de la pré-radicalisation, vous voyez, pour être un petit peu... Et si vous voulez, là, on travaille à la fois sur les notions d'empathie, côté psy, et comment, dans les pratiques, mais dans les pratiques elles-mêmes, comment j'anime un atelier, quelle position le médiateur a par rapport à ses publics, etc., comment on met en œuvre ces pratiques d'empathie dans le cadre d'ateliers. Et là-dessus, si vous voulez, évidemment, dans ce genre de champ, parce que la radicalisation, enfin, j'aime pas employer ces mots-là parce que ça veut tellement rien dire, mais les gens, on va dire, s'associent à des discours comme ça qui règlent tous leurs problèmes et qui vont dans ce genre de direction, c'est des gens simplement qui ont une difficulté d'accès à leur propre expression, à leur propre subjectivité, et du coup qui trouvent comme ça des solutions, et ça peut tout à fait se comprendre. Et du coup, vraiment arriver à l'expression, c'est une des clés. Mais pour arriver à l'expression, justement, on travaille beaucoup sur l'image d'abord, et pas le texte d'abord, et puis la création de films. De même, quand on parle de l'expression des jeunes, souvent, on va faire des micro-trottoirs. Mais ça peut être sympa, hein, un micro-trottoir. Mais qu'est-ce que c'est un micro-trottoir? C'est quelqu'un qui est interviewé par une caméra. Et je sais pas, vous allez dans un quartier. Et les micro-trottoirs et des gens interviewés par des caméras, on en a vu plein. Les gens à qui on va proposer le micro-trottoir, eux aussi, ils ont vu plein de micro-trottoirs. Du coup, eh ben en fait, ils vont se mettre en scène. Ils vont reproduire ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux. Et vu que c'est un dispositif le même, eh ben, ils vont raconter des choses. Du coup, le jeune d'un quartier, il va jouer son rôle de jeune des quartiers tel qu'il est construit par le système médiatique. Du coup, si vous voulez, dire que faire une interview au sens classique du terme et dire que c'est de l'expression, bah, y a un peu d'expression, mais il y a surtout énormément de reproduction. C'est pour ça que je parle de questionner les pratiques. On peut dire, bah oui, mais c'est ça l'audiovisuel. Ben non. On peut, si par exemple vous donnez la caméra à quelqu'un, vous lui dites, bah tiens, filme quelque chose, et bien du coup, comment il cadre? Peut-être il ne va pas oser, etc. Comment il cadre? Comment il montre? Quelle durée, pendant combien de temps il filme? Et puis peut-être que si vous lui demandez de faire un commentaire en voix off sur ce qu'il est en train de montrer, bien, tout à coup, c'est sa subjectivité qui entre en jeu. Parce que aujourd'hui, on est tous producteurs d'images, d'une certaine manière, dans notre quotidien. Du coup, on a la possibilité de préhension de ces outils-là. Mais quand on encadre, on peut proposer justement une expression avec ces outils-là. Voilà pourquoi je parle de méthode. Et du coup, je pense que dans la formation, pour revenir à la formation, il y a l'aspect technique, mais il y a l'aspect aussi méthodologique. Et l'aspect, je crois, de questionner ces pratiques au fil de l'eau, de partager ces pratiques au fil de l'eau, de ne pas être que justement dans la culture du résultat. Mais je crois que ce qui est le plus important, ce n'est pas d'avoir produit un résultat, c'est d'être dans un processus. Parce que justement, ce qu'on a produit, ça va s'inscrire dans un processus d'appropriation par les publics, etc. Il n'y a pas un résultat qui est fini et puis c'est bon. Si, il est sur une étagère, il est rangé dans le web, mais il est sur une étagère aussi, comme avant quand on faisait des films qui étaient sur une étagère et que personne ne voyait. C'est exactement pareil pour le web. Je vais vous donner juste un... Et puis je vais bientôt... Oui, 10 petites minutes. Je vais vous donner deux, trois autres petits exemples... je crois que du coup tout à l'heure j'ai parlé du transmédia. C'est un terme un peu à la mode, à la mode depuis 15 ans en fait, mais encore un petit peu à la mode quand même. Du coup, juste pour le définir, le transmédia en fait c'est quand on fait un projet qui se déploie dans différents espaces médiatiques. En fait, c'est un terme qui a été inventé en 2003 par Henry Jenkins après la sortie des films Matrix 2 et 3. Parce que si vous voulez, les films sont sortis, mais en même temps que les films, il y avait un jeu vidéo, et puis il y avait des courts-métrages déclinés de l'univers des films, et puis il y avait des forums, vous voyez, il y avait une sorte d'univers comme ça. Et du coup, je peux voir les films Matrix 2 et 3 sans du tout jamais être allé jamais avoir joué aux jeux vidéo, etc. Ça va, je vais voir les films. Et je peux aussi seulement jouer aux jeux vidéo et ne jamais regarder les films, mais je peux aussi faire les deux. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle le transmédia, c'est-à-dire que c'est plutôt un univers. Voilà. Et si vous voulez, on est tous dans le transmédia. Et d'une certaine manière, quand on va produire un webdoc, et puis qu'on va organiser une séance de restitution, ben on est dans le transmédia, dans le sens où il y a deux formes distinctes qui dialoguent l'une avec l'autre. Les chaînes de télévision, depuis, on va dire, une petite dizaine d'années, sont très férues de transmédia. Pourquoi ? Parce que le public, si vous voulez, de la télévision, qui avant était devant sa télévision, du fait de la multiplication des écrans, le public est beaucoup plus volatile. Et du coup, il est moins présent devant l'écran de la télévision. Du coup, si on prend TF1, qui vend des espaces publicitaires, vous savez sans doute, mais TF1, chaque jour, la valeur de son écran publicitaire baisse. Elle a de moins en moins de valeur, parce qu'il y a de moins en moins de spectateurs devant TF1. On peut dire bonne nouvelle. Mais en fait, eux, c'est des actionnaires, hein, ils n'entendent pas de cette oreille-là. Du coup, ils développent d'autres plateformes, des complémentarités, etc., auxquelles les publics se baladent, eh ben on va les suivre et on va leur faire des propositions dans différents champs médiatiques et trouver des complémentarités. Il y a une nécessité de survie économique hein, des acteurs avec le transmédia. Mais le transmédia, c'est aussi finalement la réalité de tout le monde et je pense que c'est une dimension qui est à considérer dans nos projets. Alors, je voulais vous donner un ou deux petits exemples. Bon, c'est pas... ce sera plus important de voir vos projets, que vous présentiez vos projets, mais je vous ai parlé de ce qu'on fait avec Serge Tisseron et je vais vous donner deux exemples. Ça, c'est le Musée de l'Homme à Paris. Ils ont une exposition sur le racisme. Attendez, est-ce que je vous montre la vidéo? Bon, je vous la montre, mais sans son. Comme ça, vous allez voir un petit peu. Ils ont une exposition sur le racisme et les préjugés, qui en ce moment qui marche très bien d'ailleurs. Et dans le cadre de cette exposition, en fait, on propose, c'est un petit reportage qui a été fait dessus, on propose des ateliers de réalisation de films d'animation. C'est-à-dire que on le voit là derrière, les gens, après avoir visité l'exposition, on va attendre que, bon, ça va attendre que je vais un petit peu plus loin, voilà. Ils arrivent dans un dispositif, là c'est moi qui raconte mon truc, je vais juste mettre... en arrêt sur image sur la photo, les gens arrivent dans ce dispositif où il y a c'est une chose qu'on avait faite à Aix d'ailleurs en septembre, il y a une table où ils peuvent découper des papiers et puis ensuite ils peuvent aller ici tourner des films avec des tablettes qu'on met à disposition et ça fait des petits films d'animation qu'on passe ici qui sont des, vous voyez, il y a le découpage, des films muets où les gens se réapproprient, si vous voulez, des éléments d'exposition qu'on a imprimés, des revues, des choses comme ça. Ils découpent, ils s'amusent, et puis ensuite, ils mettent ça sous forme de film. Alors, pour vous montrer, donc voilà, on voit un petit peu comment ça se passe. Et pour vous montrer le type, vous voyez, ça fait ce type de film. Attendez, on va... Vous voyez un petit peu... Vous voyez, ça fait ce genre de choses comme ça, avec un lien entre le texte, l'image, des choses très ludiques. Du coup, donc il y a à la fois des individus, il y a des familles, il y a des enfants, enfin bref, c'est tout à fait approprié. Et alors, il y a une chaîne YouTube, le Musée de l'Homme a une chaîne YouTube. Là, on a fait 4 jours d'atelier jusqu'à présent, il y a... 120 films qui ont été faits, dont certains qui sont vraiment très 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 beaux, quoi, et notamment quand c'est les enfants qui se réapproprient ces thématiques sur le racisme, c'est vraiment vraiment très beau. Il y a des choses très simples comme ce que vous voyez là, et puis il y a des choses beaucoup plus sophistiquées. C'est un atelier assez ouvert, c'est-à-dire que des gens peuvent passer 15 minutes et faire un petit truc vite fait, ou il y a des gens qui ont passé 3 heures en famille à découper plein de choses et à faire des films beaucoup plus élaborés. Il y a certains de ces films qui sont du coup utilisés par le Musée de l'Homme pour faire la promo de son exposition qui marche jusqu'à janvier. Donc vous voyez, c'est un petit peu l'aspect transmédia. Et puis pour la fête du cinéma avant-hier, dimanche, on a fait une visite augmentée de l'exposition, c'est-à-dire une visite guidée de l'exposition, mais avec dans l'exposition la projection d'un certain nombre de films réalisés par les gens qui rajoutaient finalement des informations et qui enrichissaient l'exposition. Donc c'est là où les productions amateurs, si vous voulez, peuvent tout à fait venir enrichir le fait culturel dans son ensemble, et c'est pas du tout de la démagogie, parce qu'on a fait une sélection de 10 films parmi les 120 films qui nous semblaient intéressants. Voilà pour ce petit exemple. Et y a quelque chose aussi, dont une chose qu'on a d'ailleurs faite avec Olivier ici présent à Martigues l'année dernière, c'est des projections itinérantes. Ça, c'est des choses qu'on peut faire dans des quartiers avec les vidéoprojecteurs portables. Vous voyez ce que c'est, les vidéoprojecteurs portables, les picoprojecteurs? C'est ces petits objets autonomes qui permettent de projeter où on veut, comme on veut, sans avoir de fil à la patte. Et du coup, on peut projeter dans les rues des films comme on veut. On peut emmener un public et du coup réinvestir, si vous voulez, l'espace public, l'espace de la rue, le réinvestir avec une mémoire, hein, c'est des expériences qui se font souvent. Mais, si vous voulez, là c'est pareil, dans ce genre de choses, on peut dire, c'est super sympa de projeter un film sur un mur. Mais ça, c'est une technique. Ce qui est important, c'est pas tant le fait de projeter un film sur un mur, c'est comment on le fait. C'est-à-dire comment on travaille, qui le fait, comment c'est approprié, comment on va proposer à des habitants de le faire eux-mêmes, de se balader dans les lieux, de chercher les lieux de projection, de décider de qu'est-ce qu'ils vont montrer sur les murs, de mobiliser du public. J'ai eu le cas, c'était il y a 15 jours, à Saint-Nazaire, dans le cadre d'un festival de cinéma, un nouveau festival qui n'a pas encore beaucoup de public, et je terminerai là-dessus, sur cet exemple, on avait fait des ateliers de réalisation pour des jeunes, des adolescents, qui ont réalisé des films sur leur ville. Et il y a le festival, et le samedi soir, il y a projection itinérante des films dans la ville, c'est les jeunes eux-mêmes qui organisaient la projection, qui avaient fait la communication, donc ils en ont parlé autour d'eux. Il y avait aussi des danseurs, un groupe de danseurs, et puis des musiciens. Donc il y avait, si vous voulez, dans la ville, un parcours d'une heure avec des films, de la musique, de la danse, mais avec plusieurs jours de préparation, de répétition. Vous voyez, c'était pas un truc vite fait, mal fait. Et il se trouve que ce festival, il n'y avait pas énormément de monde, il y avait une moyenne entre 10 et 30 personnes dans les salles. Mais donc moi je me disais, pour la projection, on aura peut-être 30 personnes. On avait prévu de rentrer dans des cours d'immeubles, etc. Et en fait, il y avait 120 personnes pour la projection itinérante. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de public pour ce fait culturel-là, qui était l'expression des jeunes. Et puis la projection, du coup, on a dû changer au dernier moment parce qu'on ne pouvait pas faire rentrer tous ces gens partout. Mais ça a été un vrai succès et un vrai plaisir. Et si vous voulez, c'est vrai que quand j'ai vu dans ma ville... un film sur un mur, mais c'est pas juste un film sur un mur, c'est toute la médiation autour qui a donné de l'importance à ce moment où ensemble on voyait ce film sur ce mur. Et bien là, il y a quelque chose qui se passe et qui s'inscrit, voilà, qui s'inscrit dans la tête de tout le monde. Je m'arrête là, je pourrais prendre d'autres exemples. J'espère que... Voilà, j'espère avoir partagé des choses qui peuvent être utiles. Peut-être on peut se prendre un petit moment d'échange, 10 minutes, avant qu'on passe à la présentation des projets. Du coup, je ne sais pas, si certains ont des remarques, n'hésitez pas, ou si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, on a chacun nos pratiques et le débat, c'est l'essentiel. Si vous n'avez pas spécialement de questions, on enchaîne. Hein, c'est pas, et sachant que d'ailleurs, si ça peut venir, moi je vais être là, je vais être présent pour modérer les choses. Et puis je pense que les idées vont... Bon, attendons quand même 30 secondes si vous avez...
Toujours un premier qui sort.
Oui, c'est ça, c'est toujours... Bon. Je pense qu'on va peut-être enchaîner sur les projets, hein, parce que c'est très bien, tout va bien. Non mais là, vous savez, quand on souvent on se dit ah bah mince, ils n'ont pas de questions, mais je veux dire, quand on est dans l'échange, on est aussi, c'est des échanges qui se passent en profondeur. Enfin, je veux dire, on n'a pas forcément tout de suite des réactions du tac au tac, et c'est pas du tout un signe négatif pour moi. Hein.
Une petite question.
Ah.
Si tu veux, au fil des années, ce qui a été commun là, de nombreux projets, c'est la question qui se pose à un moment d'utiliser des souvenirs familiaux, y compris sur des périodes douloureuses. Je pense par exemple à la guerre d'Algérie. Ou, bon. Moi, j'aimerais connaître ton point de vue. Quand un artiste ou un porteur de projet dans un quartier se pose à un moment donné la question de comment il va révéler, utiliser une espèce de patrimoine énorme des fois, hein. C'est des stocks de films, des vidéos, quels que soient les formats, etc. Et qui veut les placer au cœur de son projet, donc en les révélant à des publics plus larges sur le quartier, etc. On n'a jamais vu vraiment... on n'a pas trouvé la bonne méthode, c'est-à-dire qu'on a vécu pas mal d'expériences réussies, pas mal d'expériences échouées. Je pense par exemple à une jeune fille qui avait écrit un livre sur l'histoire de son père, qui avait vécu des événements très douloureux en Kabylie, il était harki, etc. Et qui, plus elle avançait dans l'écriture, plus toute la famille bloquée, au point qu'elle a arrêté. Elle a arrêté le livre, le livre était écrit aux trois quarts, et elle a dû faire une machine arrière. Et on a eu le sentiment, nous tous qui étions autour de ce projet, qu'on s'y était peut-être mal pris, quoi, tu vois, qu'on avait peut-être, on était tombé dans une forme de violence, y compris à l'égard du père, qui visiblement avait mal vécu, y compris le fait qu'on allait le mettre en valeur. C'était, en plus, elle était quelqu'un d'assez héroïque dans sa vie, mais il refusait quand même ce dévoilement. Moi, j'aimerais connaître ton point de vue sur cette question-là, qu'on rencontre sans arrêt, en fait.
Alors, merci pour ta question, parce que ça touche à quelque chose de très important, ça me donne l'occasion d'en parler. Je pense que, à mon avis, dans ce type de projet, souvent on confond deux étapes qu'il faut distinguer. C'est-à-dire, la première étape, c'est l'indexation des contenus, c'est-à-dire créer une base de données. Et puis la deuxième étape, c'est l'éditorialisation, c'est-à-dire comment je mets en scène ces données. Et souvent, on fait tout en même temps, c'est-à-dire qu'on part dans la logique du montage cinématographique où on a plein de rushs, et puis on va sélectionner, on va jeter à la poubelle plein de choses et garder que l'essentiel. Et je crois que, justement, dans la question de l'appropriation, indexer des contenus, c'est-à-dire où est-ce que je les range, comment je les range, comment je les nomme, comment je donne accès à ce patrimoine. Et après, peut-être que elle va faire quelque chose, mais peut-être que quelqu'un d'autre peut se le réapproprier. Et puis ensuite, il y a la question de ce qu'on appelle l'interopérabilité des bases de données, c'est-à-dire comment j'ai indexé mes contenus d'une certaine manière, mais peut-être quelqu'un d'autre a indexé ses contenus amateurs et encore quelqu'un d'autre, et comment éventuellement on pourrait faire dialoguer tout ça. Là, il y a des enjeux hyper importants. C'est ce qu'on appelle, en fait, c'est le terme un peu classique, c'est ce qu'on appelle le big data, en fait, hein, c'est-à-dire la donnée. Mais en réalité, la donnée, elle nous concerne même au niveau individuel. Comment j'organise mes données, et dès lors que j'ai des données organisées, je peux ensuite en faire plein de choses différentes. C'est-à-dire que je ne ferme pas un usage et puis je dis ça y est, c'est ça. Non, j'ai de la donnée que je peux exploiter de différentes manières. Et je pense que, si tu veux, sur l'enjeu de justement, ah là là, c'est choquant, du coup le projet est bloqué, etc. C'est parce qu'on a fait les deux en même temps. L'éditorialisation, elle peut être choquante, mais si j'ai de la donnée organisée, bah, à la limite, peut-être que la personne à qui ça pose problème, bah, on est souple, on peut modifier, etc. Et puis peut-être aujourd'hui, on va faire un film peut-être un peu plus consensuel, et puis peut-être dans plusieurs années, du chemin va être fait, et on va pouvoir aller plus loin. Mais je pense qu'il faut vraiment envisager la relation au patrimoine dans la longue durée, et avec ce qu'on appelle l'indexation. C'est ce que font les grands acteurs du web, hein, Google. Ils font que ça, ils font que indexer des contenus, et à partir de ces contenus, nous on vit, grâce à leur indexation de l'information du monde, et bien on trouve plein d'informations qui nous nourrissent, et on se l'approprie comme on veut, on en fait ce qu'on veut, on construit notre propre histoire à partir de cette indexation. Alors bien sûr que eux, ils ne sont pas dans un regard subjectif. Si, en fait, il y a un regard subjectif, mais je ne dis pas qu'il faut faire que de l'indexation et devenir tous des bibliothécaires, hein. Mais c'est un point de départ, à mon avis. Après, si j'ai juste un projet artistique, bon, bah, je fais mon projet artistique, j'ai rien contre le fait de faire un film avec des rushs, bien sûr, et d'enlever ce qui n'a pas été utile. Mais dans le cadre du patrimoine, et notamment des contenus amateurs, c'est dommage, et c'est ce que font un certain nombre de cinémathèques, hein, qui rapatrient le plus possible de contenus amateurs, qui les indexent. Notamment, j'ai fait un projet à Rennes, comme ça, il y a 2 ans, avec des étudiants, où la Cinémathèque de Bretagne, qui est très active sur les contenus amateurs, a mis à disposition un certain nombre de contenus amateurs, et ensuite on a organisé justement des projections itinérantes dans la ville où on passait dans certains quartiers des choses qui avaient été tournées là 50 ans avant, c'était très beau. Donc voilà, je crois que l'indexation, c'est un point hyper important. Et alors là, là-dessus, il y a aussi des besoins de formation, parce qu'on fait comment pour indexer, on emploie quel logiciel, et comment faire pour que ce ne soit pas un truc totalement laborieux et qu'on ne fait pas parce qu'en fait, ça nous emmerde. Là-dessus, je crois qu'il y a vraiment des enjeux.
Oui.
Oui.
C'est ça.
Donc, Léa Boirois, de l'association Éclore, on porte le projet Wikipédia en partenariat avec Didac Ressources. Et moi, j'avais. Ouais, je n'aime pas parler dans les micros.
Non, il marche pas.
C'est parfait. Déjà, merci, parce que c'était assez intéressant. C'est des questionnements de fond qui me semble super, super pertinent, la question du transmédia ou cette question-là de l'indexation et l'éditorialisation. Il y a un travail qui m'intéressait aussi qui était d'éditorialiser des choses qui sont déjà indexées par ailleurs, parce que je pense que comment on s'approprie des choses qui existent sur Google, sur YouTube pour faire d'autres montages et d'autres choses, ça parle beaucoup. On voit l'efficacité sur les réseaux sociaux de certains remontages, de certains zappings d'émissions qui existent, de choses comme ça. Je pense que c'est une question pertinente aussi de dissocier ces deux étapes, l'indexation et l'éditorialisation des données. Moi, il y avait des questionnements qui se posaient sur à la fois le patrimoine et à la fois la question de la valorisation, parce que c'est justement YouTube, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure plateforme pour être maître de ces données, etc. Nous, sur une vidéo que des jeunes ont faite à Malpasser, nous, on a facilité, en fait, au niveau technique, au niveau de l'émergence des idées, etc. Mais l'entièreté du scénario, etc., a été faite par eux. En fait, on n'a pas du tout diffusé pour le moment. On va faire la restitution cette semaine. Et il y a 2500 vues. Et c'est les gamins du quartier qui se la sont partagés entre eux, qui du coup nous sollicitent pour faire autre chose, qui ont écrit une suite et une série de choses parce qu'on leur donnait un espace pour parler où on disait vous avez le droit en fait d'utiliser des mots qui ne sont pas ceux qu'on entend tous les jours à la télé, etc. Et donc cette question-là, c'est vrai que Il y a la question de la circulation au-delà de l'archivage. Et pour moi, cette circulation-là m'intéresse. Et de l'autre côté, on a un autre groupe qui a produit des choses et qui refuse complètement qu'on les mette en ligne et qu'on les rende publics. Parce que c'était. Ils ont fait le choix de travailler sur des choses très intimes. Il y a des questions liées à des vécus très violents sur l'homophobie ou sur les questions de migration, etc. Donc on a ces données-là et je pense qu'on ne les rendra jamais publiques, mais qui ont fait émerger d'autres discours de la part des jeunes. Et finalement, cette question du patrimoine, j'ai du mal à créer la balance. C'est une question qui se posait. Comment créer la balance entre la valorisation et le patrimoine?
Je pense qu'il faut faire les deux. C'est-à-dire que je pense que, en effet, la circulation, moi, j'ai rien contre YouTube en soi parce que ça facilite la circulation, le partage. Mais je pense que, par exemple, cette vidéo dont vous parlez, je pense que le fait qu'elle soit sur YouTube et qu'il y a 2500 vues, c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est
sûr. C'est pas énorme en soi, 2500 vues, mais c'est énorme. Parce qu'on
si. Au regard du projet, si, c'est énorme. Enfin, je veux dire, tout est relatif. Hein. Mais ça n'empêche pas que dans votre site internet, il y a aussi un archivage de la même vidéo. Oui, c'est-à-dire, je pense qu'il faut faire les deux en parallèle. C'est-à-dire, on utilise les plateformes pour la circulation, mais on doublonne pour la dimension patrimoniale dans sa plateforme. Moi, je pense
ce qui par contre va diminuer le nombre de vues.
Non, parce que c'est pas le même usage. Au contraire, peut-être que des gens qui l'auront vu sur le site vont vouloir le partager. Et dans ce cas-là, ils vont partager le lien YouTube. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Ce n'est pas du tout un problème que les choses soient en doublon parce que ce n'est pas du tout le même espace. Parce que c'est sûr qu'un site patrimonial, ce n'est pas la même chose que YouTube. Donc, mon approche de ça, c'est un doublonnage, en fait.
C'est
voilà.
Vrai que c'est déjà un peu le cas, mais c'est vrai que c'était une question.
Assumez-le pleinement. C'est vrai que le mash-up, le réemploi, c'est quelque chose de, comme vous disiez, qui est très riche. Et attendez, il y avait une autre question. Non, c'était ça, principalement.
C'est vrai que j'étais contente d'entendre parler du transmédia, parce que c'est quelque chose qu'on explore, mais c'était pas une question.
Merci. Oui.
Oui. Ça marche.
Alors, Michael Varlet, je suis plutôt connu sous le nom de Caillou. Je suis artiste scénographique numérique sur la ville de Martigues. Vraiment la partie, c'est pareil, en lisant l'appel d'offres, la partie justement de mettre sur internet les vidéos au final, elle pose vraiment une question pour moi en tant qu'artiste parce que il y a à la fois le vivre ensemble et le fait d'internet, on peut se dire c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt individuel de regarder une vidéo chez soi, seul par exemple. Pour dire le type de projet qu'on fait, je fais des projections mapping. Donc ça fait 5 mappings qu'on fait chaque année dans des quartiers. Justement, on essaye de faire au maximum une création participative avec le public, à la fois des enfants, valoriser des gens sur le quartier, valoriser l'histoire du quartier. Et on fait une grande projection sur des bâtiments entre 7 et 14 étages. Et ce qu'il en sort depuis 5 ans, c'est qu'à chaque fois, il y a entre 800 et 1500 personnes sur la place. Alors là, la question se pose là, je mets la vidéo ensuite sur Internet, et la vidéo sur Internet, elle a 200 vues. Voilà. Est-ce que le vivre ensemble, il se fait avec les personnes présentes, avec les rencontres humaines, sachant qu'on organise après coup souvent une sorte de petite restauration, une petite soirée pour que les gens, pour qu'il y ait une vie de quartier qui se crée, et que les gens échangent. Et j'ai l'impression qu'il y a la question de la diffusion sur Internet qui est quelque chose de particulier. Je travaille pour des spectacles de danse. La DRAC, par exemple, nous donne une subvention pour la création. On passe une année ou deux sur la création. Et ensuite, on peut avoir des subventions pour la diffusion. Et c'est deux choses différentes. Et j'ai l'impression que sur Internet, la question de la diffusion, elle n'est pas aussi simple que ça. Voilà, je pose un petit peu la question.
Je pense que, en effet, Internet n'est pas un espace de diffusion vaste. Et ce que vous dites, je veux dire, ça soutient bien le fait que l'action locale, elle est essentielle. Mais après, quand vous dites la vidéo, elle a été vue 200 fois sur Internet, mais dans 10 ans, elle aura peut-être été vue 2000 fois. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment envisager Internet comme un espace d'archives dans la longue durée. Il ne faut pas avoir d'attente immédiate sur Internet. L'immédiat, il ne se passe pas sur Internet. À part Snapchat et tout, d'accord. Mais sur nos projets, l'immédiat, il se passe dans la rencontre physique. Et Internet, c'est pour raconter l'histoire. Et c'est hyper important, à mon avis, qu'il y ait la vidéo sur Internet pour cette raison-là, à mon avis.
Oui, bonjour. Je voudrais... Nathalie Cazal. Je suis consultante en tourisme et culture et je fais de la valorisation du patrimoine depuis 30 ans dans divers contextes. Aujourd'hui, avec Abed Alidès, nous sommes sur un projet à la Cité des Égalades de récits de vie, de récollement de photos de famille pour le montage d'un site internet. Et je voulais réagir à votre question entre la valorisation et le récollement de données. Pour moi, c'est un principe, bien sûr, le volet récollement, surtout s'il est fait avec des fonds publics, comme c'est le cas ici, le résultat doit être remis à des instances publiques également. Donc nous travaillons à cela, à ce que toutes ces données brutes, qu'ils soient les récits, qu'ils soient les photos, etc., aujourd'hui sont dans le secteur privé associatif, mais reviennent un jour ou l'autre au secteur public. Nous n'avons pas encore le... exactement si ce sera les archives, lesquelles, ou des services ou autres, mais en fait ce seront des services publics. Ça relève effectivement de l'évidence, me semble-t-il, surtout sur des projets qui ont été faits avec des fonds publics. Là, je parle en tant que citoyenne. Sur la valorisation, c'est aussi finalement la responsabilité des artistes et des auteurs et des acteurs. Avoir un accord avec les participants. Si on l'a fait dans un processus participatif comme on le revendique, là, il ne devrait pas y avoir de problème puisque c'est un accord avec ceux avec qui nous l'avons fait. Donc il me semble qu'il y a bien une distinction très nette à faire et qui, entre les deux. Donc voilà, je voulais rebondir quand même sur cette réponse qui, pour nous, relevait de quelque chose, et une responsabilité individuelle aussi, et qui était vraiment marquée dès le départ dans ces projets-là.
Juste peut-être tu vas répondre, mais juste un tout petit point, je me permets une incise sur les données qui vont devenir publiques et qui vont revenir à la puissance publique. Le problème, c'est qu'en face, quand vous voudrez donner vos données, vous n'aurez peut-être pas d'interlocuteur. C'est-à-dire que ça dépend, hein, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de collectif à mettre en œuvre. Et là, il y a vraiment un processus, je parlais d'interopérabilité, c'est-à-dire employer des modèles de données qui peuvent dialoguer les uns avec les autres. Ça, c'est simple à dire, mais à faire, je peux vous dire que c'est des gros chantiers, et c'est des chantiers qui valent vraiment la peine, parce que là, on peut s'enrichir les uns des autres. Certains qui ont mis en place une méthode, ben, peuvent la donner aux autres, etc. C'est loin d'être fait, hein, et voilà.
Donc, deux mots, l'originalité première de cet appel d'offres, c'est aussi une commande publique. Il y a de l'argent public, mais la volonté politique d'avoir mis l'artiste comme clé de voûte des productions et des créations, ça, automatiquement, ça a impliqué une liberté maxime. Moi, j'ai été témoin de ça pendant 12 ans. Les artistes ont été vraiment libres, même quand les sujets, les thématiques étaient lourdes. On va le garder, ça. On va le garder. On va garder un dispositif où la liberté d'expression reste majeure. Par contre, avant de passer la parole, ce qui nous intéresse, on s'est rendu compte au fil du temps, il y a aussi un problème générationnel. Il y a des jeunes maintenant qui travaillent dans des techniques, etc. L'appel d'offres était un peu fermé sur lui-même, à toucher qu'une génération de porteurs de projets sur des disciplines artistiques classiques, quoi. Et notre volonté à l'heure actuelle et la volonté des financeurs publics, c'est d'ouvrir, hein, d'aller sur des territoires où on puisse permettre à des générations d'artistes plus jeunes aussi de pouvoir s'exprimer avec leur manière de voir, qui ne sont pas forcément celles de la génération d'avant et tout. Hein. Je pense qu'on... On va pas tout voir là, hein, aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que j'ai démarré en vous disant, on va se retrouver. Première semaine d'octobre, une journée entière. Hein, ça sera libre d'accès. Encore avec Benoît, avec d'autres certainement. Donc partez de l'idée qu'on amorce un processus de travail. On va pas le boucler là. Hein. C'était pour vous donner le ton. Vous voyez, voilà. Donc je pense qu'on pourrait passer peut-être à la...
Ah oui.
Ah oui, pardon.
Oui, oui.
Je vais mettre à côté de vous,
oui, c'est
pas grave. Bonjour, ça va. Moi, je voudrais juste dire qu'il n'y a pas que les artistes qui sont libres. C'est important.
Oui, oui, oui.
Les personnes qui participent depuis des années à collecter la mémoire dans le quartier, ils sont libres aussi.
Oui, oui.
Voilà. Il n'y aurait pas un déterminisme comme ça aux acteurs du numérique ou du monde artistique à être plus libres que les autres. Je pense qu'il y a encore des gens qui ont le courage d'être libres. C'est bien. Et vous avez évoqué le texte au départ. Ce que je voulais dire, c'est que ça peut exclure aussi ce souci du scénario. Ça peut exclure aussi des gens qui savent écrire. Parce qu'en fait, on a des cultures professionnelles très différentes. Et que la technique, parfois, a un peu tendance à dépolitiser les questions qu'on évoque. Or, on évoque des questions très sensibles. Tu évoquais la question de la guerre d'Algérie, mais celle des mémoires populaires et les quartiers populaires sont tout autant sensibles, elles s'articulent en fait à la question de la guerre d'Algérie souvent. Donc, rendre public des mémoires, même quand elles semblent très individuelles, mais qu'elles révèlent en fait une histoire qui est une histoire beaucoup plus collective, c'est compliqué. C'est compliqué aussi sur Internet, parce qu'il y a des choses qu'on peut dire dans un entre-soi avec quelqu'un qui joue un rôle de passeur de mémoire. Mais quand on le dit sur Internet, ça va engager toute une famille, tout un groupe, tout un quartier. Et donc, ça a un impact beaucoup plus difficile, enfin, à gérer, quoi. Voilà. Je voulais témoigner de ça parce que je trouve que c'est à la fois super intéressant cet appel à projet, parce que ça nous bouscule aussi dans nos pratiques professionnelles. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne travaille pas tout à fait comme des artistes, on travaille pas tout à fait, on n'est pas des spécialistes du champ du numérique. Et que ben, confronter ces pratiques professionnelles, c'est tout à fait enrichissant. J'ai l'impression que, y compris les acteurs du numérique, sont encore dans cette expérimentation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réglé toutes ces questions d'impact, finalement, de la transmission, de la valorisation d'une mémoire. Merci.
Ouais, je pense que j'ai une grande voix. Je voulais réagir à ce que dit madame. Je suis effectivement très, très d'accord. Moi, j'avais du coup une question un peu à partager sur la salle, sur comment vous faites, vous, dans vos projets, qu'est-ce que vous utilisez pour justement accompagner les gens qui participent au projet avec vous les accompagner dans comment je dévoile l'intimité, en quoi elle va servir l'intérêt collectif et comment je peux l'assumer, faire face aux commentaires sur Internet, ce genre de choses. Comment vous accompagnez les gens qui participent avec vous là-dessus ? Pardon, je vais juste dire d'où je parle. Je suis Pierrick, je suis éducateur dans les quartiers nord pour la DAP 13. C'est des projets qu'on a aussi l'habitude de mener. Mais du coup, moi, c'est cette question-là qui m'intéresse. Comment accompagner les gens à travers ces...
Je pense que c'est une transition pas mal pour la présentation des projets, où c'est bien que vous ayez ça en tête. Juste pour juste boucler ma présentation en une minute, je vous remercie beaucoup pour votre intervention parce que ce que vous nous dites, c'est qu'il faut travailler dans la nuance aussi. Il n'y a pas une solution, il n'y a pas une façon de faire, c'est toujours de la nuance. Et je crois que la question de la position de l'artiste, elle est hyper importante. C'est-à-dire que je crois que là aussi, il y a une dimension de formation. C'est-à-dire que l'expression, c'est le fait de tous. Et vous parliez de liberté, tout le monde doit être libre et tout le monde a le droit de s'exprimer, et pas seulement les artistes. Et je crois que justement, la fonction de l'artiste, c'est quelqu'un qui a trouvé les moyens de s'exprimer et il peut partager ces moyens-là. Mais il faut faire super attention parce que parfois, justement, en tant qu'artiste, il peut arriver qu'on instrumentalise, entre guillemets, des publics pour s'exprimer soi-même. Et je pense que, justement, l'artiste, il est capable de s'exprimer et dans le cadre des projets de médiation, il va partager ses capacités et ses compétences, mais pas utiliser d'autres pour faire ce dont il serait frustré, parce que, etc. Du coup, ça, je pense que c'est un point aussi assez important, justement, dans les formations. C'est pas pour critiquer, mais de savoir comment se positionner au juste endroit pour aller dans les bons objectifs.
Bon, tu... Une dernière question, et puis on...
Ouais. Oui.
Ça sera jamais une dernière question. Tiens le micro. Ou...
Oui, on peut faire... Enfin, je ne sais pas si c'est juste pour sonoriser ou bien... Michael Dupérin, je suis artiste, photographe. Je voulais revenir à votre première question de tout à l'heure. Il me semble qu'il contenait beaucoup de questions et beaucoup d'enjeux qui a déjà fait réagir. Il y a peut-être déjà la question de qu'est-ce qui se passe quand on ouvre la boîte de Pandore de mémoire douloureuse. La position, c'était une question qui a commencé à être soulevée aussi, la position qui était plus difficile encore quand on est soi-même acteur. C'était le cas de cette jeune femme finalement qui était la fille, je crois, d'un monsieur Arki, de la distance, de dans quelle mesure on a réussi à associer ou pas les autres personnes? Est-ce qu'il y a une co-élaboration? Ça poserait plein de questions sur ce cas-là en particulier, quoi, mais il y a quand même oui, cette difficulté, enfin, en tout cas c'est un problème qui mérite d'être posé comme ça. Comment on travaille avec les gens? Comment effectivement on arrive à les associer avec des enjeux qui ne sont pas les mêmes pour les uns pour les autres, enfin, pour les différents acteurs? Donc il y a probablement quelque chose de l'ordre d'une négociation, de construire peut-être un territoire commun. Voilà, enfin, je jette en pâture quelques questions comme ça.
Les questions que vous posez, c'est vraiment l'essentiel. Oui, hein. L'essentiel, il est là, dans ces questions-là, de comment on fait. Et il y a des partages d'expériences. On pourrait parler une journée entière là-dessus, à l'aise, et partager justement chacun ses méthodes. Et puis il y a évidemment plein d'écoles de pratique, plein d'écoles pédagogiques, plein d'écoles thérapeutiques. Enfin, c'est un champ immense, en fait, et je crois qu'il faut se nourrir les uns des autres, il faut expérimenter des choses, mais je crois qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être en souplesse et surtout en remise en question de sa propre pratique et de sa propre position par rapport aux autres. Je pense que c'est ça qu'il faut être en capacité de mettre en mouvement, c'est-à-dire ne pas chercher à se rassurer dans une position bien fixe et bien rassurante, mais se risquer aussi réellement à la rencontre avec le projet, avec l'autre. Ça, c'est pour le dire très vite, mais c'est essentiel, et c'est votre question aussi. Là, je préfère pas rentrer dans la réponse parce qu'on en aurait pour des heures, et je pense qu'on va avoir justement des exemples maintenant, et il faut qu'on y aille. Il faut que vous veniez. Viens aussi. C'est le sujet essentiel, les questions que vous posez, c'est comment on fait. Mais là, excusez-moi, je rentre pas trop dans la réponse, mais je vous invite éventuellement, le temps que vous vous installiez, à consulter. J'ai mis en ligne un ouvrage qui s'appelle Éducation à l'image 2.0. Vous tapez Éducation à l'image 2.0, ou alors vous tapez mon nom sur internet. C'est un petit ouvrage que j'ai publié, qui est téléchargeable gratuitement en PDF. Qui rassemble un certain nombre d'idées, de pratiques, qui vraiment prennent appui sur ces questions-là, hein, du rapport à l'autre, en gros, hein, pour le dire très vite, qui s'engage dans ce type de pratique. Et de qu'est-ce qu'on construit comme espace démocratique dans la pratique elle-même de la proposition, quoi, comment ça se passe entre les gens. Mais voilà, je vous ramène à ça, mais je pense que justement, dans la façon dont peut-être moi je peux venir de temps en temps accompagner des choses, c'est vraiment des discussions de fond qu'on pourrait avoir sur des exemples concrets, quoi. Voilà.